Alors Evelyne Hasler, elle est brune, elle est petite, elle a elle est dans la quarantaine, elle est mère de 3 enfants et elle habite à Saint-Gall. Elle est née aussi à Glaris, dans cette vallée de la Linthe verte étroite et souvent noyée de brouillard, qu'elle évoque d'ailleurs aussi souvent dans ses romans. Et elle a sa mère qui vit à Glaris. Son père, lui, est revenu de New York où il était comptable chez Macy's, qui est une grande chaîne de magasins, et rêve encore du rêve américain et en ouvrant chaque matin sa fenêtre sous l'énorme massif sombre du Glernich, qui est cette montagne qui surmonte Glaris. Alors, Evelyne, quand elle est petite, elle veut très vite raconter des histoires qui balayent la montagne, qui ouvrent les portes et les fenêtres. Elle cache ses premiers poèmes dans ce pays pragmatique, puis envoie ses contes aux journaux. Elle se fera rapidement un nom avec des histoires pour enfants. Elle laisse tomber ses études de psychologie et de littérature et elle dit « J'ai senti qu'étudier m'empêcherait d'écrire ». L'histoire pousse comme les arbres, les plantes dans une ambiance particulière et pas n'importe où. Alors préparer un doctorat d'histoire ne m'aurait pas laissé aussi libre de faire mes recherches à ma manière, d'accorder l'importance qui lui revient aux facteurs psychologiques, si souvent négligés par l'histoire. Alors, chaque livre justement d'Evelyne Hasler démarre par au moins 6 mois de recherche en Suisse et à travers le monde. Et ce sera très intéressant de la semaine prochaine de découvrir quel type de recherche a dû faire Evelyne Hasler pour pouvoir raconter l'histoire d'Emily Kemping-Spyri, qui se passe donc en Suisse, mais aussi aux États-Unis, puis de nouveau en Suisse. Elle essaye d'utiliser un maximum de sources de première main. Elle dit « Je veux des détails, la vie est faite de détails ». Et par exemple, pour la femme aux ailes de cire, donc l'histoire d'Emily Kemping, eh bien, elle va sillonner Zurich où elle a vécu, elle va retrouver des descendants, enfin elle nous en racontera tout ça beaucoup plus en détail la semaine prochaine. Et elle s'imprègne par exemple, du père d'Emily Kemping, Monsieur Spyri, parce que Kemping, c'est son nom de mariage. Il y a aussi le frère de Johanna Spyri, qui est l'auteur de Heidi. Peut-être ça vous aurait dit quelque chose. Et puis, bien sûr, je vous le dis, elle ira à New York, où Emily Kemping-Spyri a fait le grand saut en ouvrant une école de droit pour les femmes, où elle va réussir là à s'imposer. Voilà. Alors, Evelyne Hasler dit encore qu'elle s'allume à la réalité. J'aime bien cette phrase. Je m'allume à la réalité avec un... Et puis, je fais des coupes, des tranches dans le gâteau de cette vie. J'ai essayé d'écrire linéairement de A à Z, mais ça n'allait pas, ça ne sonnait pas juste. Il y avait trop de zones obscures dans cette vie. C'est ce que dit donc Evelyne Hasler à propos de la vie, de l'écriture de la vie d'Emily Kemping-Spyri. Evelyne Hasler, bizarrement, se défend d'être une écrivaine féministe. Même, pourtant, si ses plus grands succès traversent tous des destins de femmes. Puisque dans Ipikaba, le paradis dans la tête, eh bien, elle retrace l'odyssée tragique des migrants anglaronais qui sont partis pour le Brésil. Mais c'est à travers aussi une femme et d'un instituteur qu'elle raconte ce voyage. Mais il y a un rôle important féminin dans cette histoire. Dans Anna Guldin, ben évidemment, c'est une femme. Et dans Emily Kemping, c'est une femme. Donc, c'est bizarre que Evelyne Hasler se défende d'être une écrivaine féministe. Mais on aura l'occasion d'en rediscuter avec elle la semaine prochaine. Alors, il est un livre, semble-t-il, qu'elle aime tout particulièrement. Et ça me pose beaucoup de problèmes parce que je ne l'ai pas lu. C'est un livre qui s'appelle « Le géant dans l'arbre », qui, semble-t-il, est l'histoire d'un vrai géant, d'un homme beaucoup trop grand, pour le vallon de la Suisse centrale où il habitait au XVIIIe siècle, qui lui a valu d'être exposé dans les foires. Ce monsieur s'appelait Melchior Tout et qui a finalement abouti à la cour du duc de Württemberg, qui était un collectionneur de curiosités et qui va l'engager comme turc de la cour. Et en fait, ce livre est une métaphore pour l'essor industriel irrésistible que connaît Glaris au XVIIIe siècle. Voilà. Alors, on aura plein de questions à lui poser la semaine prochaine. Si jamais vous en avez, nous vous rappelons qu'il ne faut pas hésiter. Il faut former notre numéro de téléphone et nous appeler au 50 40 51 41. Je répète, 50 40 41. 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève, 00 33 depuis la Suisse romande voisine. Donc la semaine prochaine, Evelyne Hasler en direct dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 de 17h à 18h30, mercredi 1er décembre. Nous évoquerons La femme aux ailes de cire, histoire d'Emily Kemping-Spyri, dernier livre édité en français aux éditions Zoé à Genève. Et puis le lendemain, marquez ceci déjà dans votre calepin, signature du livre que vous vous empresserez d'acheter si vous ne l'avez pas déjà fait. Livre que vous pourrez faire signer par Evelyne Hasler à la librairie des femmes L'Inédite à Genève, rue du Cardinal Mermillot. Yes, we got some blues with Farah Deitra. Et c'est si magnifique qu'elle nous emmène encore dans un blues hyper traditionnel qui s'appelle J'ai le blues quand la vie me préoccupe. Et c'est toujours Farah Deitra.
Oh, blues, y'all. Go way back in time. To the man I got rid of last year. Ah!
every place I go, how much I love you. Nobody knows, but someday, baby, you ain't gonna wear my life anymore. Let's go home, y'all. Come on.
Thank you for Deitra, Chicago Blues Night. C'était un extrait d'un disque magnifique où il y a plusieurs personnes qui nous font partager une nuit de blues endiablée. Tout à l'heure, je vous ferai écouter les chansons de Catherine Davis, qui elle aussi participe à ce magnifique disque. Mais maintenant, j'ai envie de vous emmener dans cette première émission consacrée à la religion par les femmes ou les femmes et le monde religieux. Et j'ai choisi de parler de ce thème parce que j'ai eu l'occasion de lire, pour l'instant dans sa première partie, un livre magnifique qui a pour titre « La religion par les femmes » qui a été écrit par deux femmes américaines, Nancy Auerfolk et Rita M. Gross, qui ont édité chez La Brèche Fides pour ce qui est de la traduction française de leur livre. Et elles ont une démarche vraiment très, très intéressante à propos des femmes et de la religion. Et en plus, elles nous font partager des destins de femmes absolument magnifiques dans leurs diverses recherches. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce livre n'est pas le résultat de l'œuvre seulement de ces deux femmes. Elles ont fait appel à de très nombreuses contributions et au fur et à mesure, des portraits de femmes ou des analyses. Parce qu'elles vous l'expliqueront dans une introduction que je vais vous lire tout à l'heure. Il y a beaucoup de renseignements très très précis et concrets de témoignages, mais il y a aussi parfois des formes d'analyse dans ce livre. Et donc, au cours d'une page ou l'autre, eh bien, ce seront divers auteurs qui auront participé à ce travail. Beaucoup de femmes ayant collaboré d'ailleurs à ce travail, mais pas seulement. Alors, ce sera la première émission. Aujourd'hui, il y en aura régulièrement, une fois par mois ou peut-être une fois tous les 6 semaines. Nous avancerons à la découverte de ce thème qui n'est pas si fréquent que ça, puisque aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, on a l'impression que la part de la religiosité diminue de plus en plus, mais la part du spirituel, par contre, est une recherche que font de plus en plus de gens. Alors je crois qu'au travers du destin de certaines femmes, ça vaut la peine de se replonger dans ce monde. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir quelles étaient les intentions de ces deux femmes, donc Nancy Auerfolk et Rita M. Gross, lorsqu'elles ont réalisé ce travail. Parce que, visiblement, elles n'ont pas du tout travaillé sur un terrain facile, en tout cas dans le domaine qui est le leur, à savoir les recherches... Les recherches d'études comparatives et interculturelles de religion. Alors, tout d'abord, je vous cite juste un extrait de leur avertissement aux lecteurs et aux lectrices. Elles nous disent que ce livre n'est pas une anthologie, même s'il a été écrit par plusieurs auteurs, mais elles se sont donné la peine de faire un tout cohérent qui conduise du simple portrait sur le vif à l'analyse de systèmes complexes et qui offre une présentation simple, unifiée des multiples formes que prend la vie religieuse des femmes dans les diverses traditions religieuses du monde. Alors, elle nous conseille de lire le livre du début jusqu'à la fin parce que, effectivement, il y a une progression dans la découverte et surtout, certaines étapes sont absolument essentielles à la compréhension complète du contenu puisqu'on va plutôt du plus simple au plus compliqué, si j'ai bien compris ce qu'elles veulent nous dire. Alors, elles disent avoir choisi délibérément l'approche, c'est-à-dire, elles veulent illustrer le fait que la vie religieuse des femmes est structurée selon des modèles interculturels. Elles ont opéré une sorte de collage en se documentant à partir d'un grand nombre de recherches historiques ou de travaux sur place. et leur volonté de conserver à leur matériel un aspect vivant et très précis est important pour mieux faire entrer le lecteur dans le monde des femmes et les a donc amenés à privilégier les études de cas comme moyen d'illustration. Leur désir est de mettre en lumière des modèles qui passent par-dessus les limites religieuses et culturelles afin de faire apparaître ce qui est commun à l'expérience des femmes plutôt que ce qui les différencie. Et elles ont commencé leur livre en donnant le portrait simple mais frappant de fortes femmes qui ont fonctionné comme leaders religieux. C'est ce que j'espère vous faire découvrir aujourd'hui. Et elles ont continué ensuite avec des modèles tout à fait de base. C'est la transformation souvent explosive qui s'opère chez les femmes qui sont appelées à un rôle exceptionnel. Les préoccupations ménagères et familiales de celles qui essayent de combiner leurs pratiques religieuses avec leur existence, entre guillemets, ordinaire. Et puis, trois autres parties dans le livre qui s'attachent à décrypter des modèles plus compliqués où les préoccupations des femmes et les changements qui se produisent dans leur existence sont situés dans des contextes religieux et culturels très variés. Et ça, je crois que lorsque l'on feuillette la table des matières et que l'on ne regarde que l'origine, le lieu que nous allons évoquer, eh bien, nous faisons un voyage extrêmement important dans le monde, puisque aujourd'hui, vous allez découvrir Julia, qui est femme de vin d'Afrique orientale, en l'occurrence au Mozambique. Vous allez découvrir l'histoire de Jnanananda, qui, elle, habite Madras et qui est mère gourou. Et puis, on peut découvrir aussi, par exemple, une mère universelle catholique aux États-Unis. On ira aussi en Corée avec les femmes chamanes. On peut se retrouver dans la Grèce antique avec, en parlant de l'extase et de la possession. Et puis, on parlera beaucoup de l'Inde dans ce livre, sous divers aspects, les rites hindous, etc. On se retrouve au Maroc, par exemple, avec les femmes qui se réfugient dans les sanctuaires des saints pour retrouver une certaine énergie. On ira aussi en Iran. On a beaucoup de choses sur l'islam. Quelques chapitres aussi sur le Japon, par exemple, une femme prophète au Japon. On ira en Chine avec l'impératrice Wu, qui était tyranne ou sainte, selon certains historiens chinois. Et puis, on se retrouvera tout à fait chez nous, en Occident, avec le statut féminin chez les protestants évangéliques américains du 19e siècle. On pourra aussi partir dans la communauté juive américaine du Middle West. On se retrouvera même au Tibet, en regardant quel est le rôle des femmes dans le bouddhisme tantrique et l'influence des femmes et leur prestige chez les Iroquois américains et leur religion traditionnelle. Je pourrais vous citer encore la Bolivie, encore les Shakers américains toujours, et puis le vaudou haïtien. Et pour terminer, même un chapitre sur les menstruations et couchements chez les indigènes australiens, une expérience spirituelle et religieuse dans cette région du monde. Donc vous voyez qu'on se balade beaucoup dans le livre de Nancy Our Folk et Rita M. Gross, La religion par les femmes. Alors, juste encore quelques extraits de leur introduction à leur livre où elles expliquent la difficulté qu'elles ont eue à travailler sur ce thème. Par exemple, elles disent qu'en tant qu'élèves d'un même programme d'études, donc toutes les deux, qui était donc une étude comparative et interculturelle des religions, elles ont appris que leur but était de comprendre l'homo religiosus, l'homme-religion. Et si on la prend dans le même sens que homme politique ou homme économique et ainsi de suite, l'expression homme-religion signifie que la religion est une forme aussi fondamentale et spontanée de l'expression humaine que le travail en communauté, la recherche de la richesse ou n'importe quel autre aspect de l'activité humaine jugé digne de devenir objet d'études académiques. Et alors, toutes les deux se préparaient à une vie de travail consistant à étudier les pratiques et les théories variées et passionnantes de l'homme religieux et à tenter de saisir les structures de l'expérience humaine et les causes de leur édification. Eh bien, il s'avère que, visiblement, on attendait aussi d'elles qu'elles s'inférieurent sans autre, à ce problème et que le terme « homme religieux » dans l'usage ordinaire rassemblait, soi-disant, tous les humains. Cependant, dans la pratique, eh bien, il leur est apparu à ces deux femmes que c'était de plus en plus évident que la discipline se concentrait presque littéralement que sur l'homme religieux, c'est-à-dire vraiment sur les mâles de la communauté religieuse. Des volumes et des cours entiers étaient consacrés à l'analyse minutieuse des interprétations et des pratiques des hommes. Et si l'arrivée des femmes trouve place dans la description, elles y entraient vraiment par la bande en tant que porteuse d'enfants et de chanteuse. Alors déjà pendant ses études, Rita Gross, par exemple, se trouva de plus en plus mal à l'aise à l'idée de passer sa vie à étudier essentiellement le mâle religieux. Et pendant qu'elle travaillait à son doctorat, à la fin des années 60, elle se mit à demander qu'on procède aussi à l'étude de la femme religieuse, aussi bien qu'à l'homme. Laissant entendre que le fait de ne pas tenir compte des modes d'expression religieuse des femmes révélait vraiment une sérieuse faille dans l'approche de la discipline. Alors, bien sûr, ce livre, « La religion par les femmes », est pour une grande part le rejeton de cette vision qu'avait eue Rita Gross à la fin des années 60 et de son appel. Et malgré les résistances initiales, dont certaines durent encore, et la critique de Rita Gross est souvent révélée justifiée dans les aspects des études religieuses. Pour parler plus spécifiquement, ce livre est le fruit des discussions que toutes ces deux femmes ont entamées lors de leur rencontre professionnelle quelques années plus tard, alors que chacune avait déjà acquis une certaine connaissance du rôle des femmes dans les traditions religieuses particulières, et que toutes les deux tentaient de donner des cours dans lesquels elles comparaient le rôle des femmes dans les différentes traditions religieuses du monde. Alors, elles disent que pour concevoir un tel livre, eh bien, il a fallu affronter trois tâches. La première, qui était vraiment extérieure au livre lui-même, consistait à faire un ample examen critique de leur champ de recherche, à savoir au juste pourquoi cette discipline avait donné une image si biaisée, si incomplète de la vie et du rôle des femmes dans la religion. Et les chercheurs ont des tendances très conservatrices, ça ne nous étonne pas, et qui ont tendance à dire que le manque d'attention pour les femmes dans cette discipline est une conséquence inévitable de leur moins grand engagement dans le monde religieux, surtout en tant que prêtresse et théologienne. Autrement dit, il semble affirmer que si la religion est en réalité une activité essentiellement masculine et que le manque d'intérêt pour ce que font les femmes reflète simplement le fait que les femmes sont réellement moins importantes. Alors, c'est évidemment pas du tout ce qu'elles ont eu l'intention de faire, Rita Hauerfolk et Rita McGross. Et donc, elles nous entraînent tout de suite, je crois. Il faut se lancer dans ce travail immédiatement, dans cette découverte d'un premier portrait de femme exceptionnelle, qui est celui de Julia, femme de vin d'Afrique orientale.